Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Geek. On est content de vous retrouver après cette émission de la semaine dernière sur l'intelligence artificielle. On vous a parlé un peu de l'intelligence artificielle dans la culture geek. D'ailleurs, oubliez de vous parler de la série phare de cette année, Westworld, sur Netflix. Et on vous avait promis qu'on vous ferait une émission sur Matrix, dont l'intelligence artificielle est évidemment le cœur du film. Bien sûr, comme chaque semaine, pour vous accompagner, Marjorie. Salut Marjorie, comment ça va ?
Moi, je vais très bien, merci.
Tu t'es refait Matrix, là, récemment ? En préparant l'émission
J'ai pas eu besoin, parce qu'ils étaient très clairs dans ma tête. Quelques extraits quand même, de ci, de là, pour être bien sûr, mais non, je les adore quand même.
Et toi, Ludo, tu es plutôt pilule rouge ou pilule bleue ?
Salut, plutôt pilule rouge quand même.
Tu veux sortir de la matrice ?
Oh, j'aime bien la réalité.
Sam également est avec nous, salut Sam.
Salut tout le monde.
Alors toi, t'es plutôt dans l'animalerie avec le lapin blanc, a priori. Tu suis toi aussi toujours les aventures du lapin blanc ?
Oui, de toute façon, il faut les suivre.
Alors si vous ne comprenez rien, ce n'est pas grave. Toutes ces références sont dans l'univers de Matrix, mais pas que. Elles viennent hors de Matrix, on les retrouve dans l'univers. Vous avez vu, c'est une phrase tout à fait correcte. Vous ne comprenez plus rien, c'est normal, c'est normal. Matrix, c'est une trilogie, et dans les trois films, on a l'impression qu'on comprend des trucs, et après on se dit, est-ce que j'ai vraiment bien tout compris ? Comment ça se passe ? En plus, il y a pléthore de personnages, il y a de la mythologie un peu partout, des considérations philosophiques et des grosses bastons, tout ça un peu mélangé, on comprend pas toujours le pourquoi du comment, mais c'est super intéressant. C'est un film qui a été réalisé par les Wachowski en 99, avec après Matrix Reloaded et Matrix Révolution en 2003. Il y a deux films qui ont été tournés en simultané et qui sont sortis à 6 mois d'écart. Alors on va commencer par vous expliquer un peu l'histoire, parce que sinon, évidemment, si vous n'avez pas vu les films, vous allez avoir du mal à suivre de quoi qu'on cause en bon français. Et notre spécialiste cinéma, c'est évidemment Marjorie. Est-ce que tu peux nous pitcher tout ça ?
Alors, on va repartir du début. Où est-ce que ça commence Matrix déjà ? Dans un monde très lointain, hein, ça se passe quand même à bien des années devant nous, l'humain a créé trop de machines et commence à se faire déborder par elles. Alors il décide de faire en sorte qu'un hiver nucléaire se répande sur la Terre pour éviter que les rayons du soleil ne viennent fournir de l'énergie aux robots et aux machines qu'ils ont construits pour se faciliter la vie. Mais les machines, très intelligentes et très évoluées, ont trouvé un autre moyen de survivre, à savoir prendre les humains et leur énergie électrique pour s'alimenter. Donc les humains sont totalement asservis, ne servent plus que d'objets. Il persiste quand même quelques humains dans les tréfonds de la Terre, très très bas sous le sol, qui résistent encore et toujours à l'envahisseur mécanique. Mais ils sont pas très nombreux, hein, on va être honnête. Et de temps en temps, ils vont chercher des humains dans la matrice pour les ramener vers le monde réel. Alors la matrice, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme informatique qui a été mis en place par les machines parce qu'ils se sont rendus compte que, inconscients, les corps humains dépérissent très rapidement et du coup, leur réserve d'énergie s'épuise. Alors, ils ont créé la matrice pour envoyer les consciences des humains dans un monde totalement virtuel où ils peuvent vivre leur vie de tous les jours, être postiers, avocats, banquiers, peu importe. Et sans se rendre compte le moins du monde de ce que peuvent subir leurs corps tout le temps.
Et c'est là que commence réellement l'histoire dans le film, puisqu'on suit l'histoire d'un jeune informaticien, si je ne dis pas de bêtises, qui est évidemment dans la matrice, mais qui ne le sait pas, puisque les humains ne savent pas qu'ils sont dans ce programme.
Mais il se pose des questions.
Qui se pose des questions, qui est un peu hacker sur les bords, et qui va apprendre qu'il est l'élu.
Il est l'élu de la race humaine. Alors, l'élu, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu compliqué. Même nous, les fans, on n'a pas très bien compris le concept. Il faut se revoir les films une bonne dizaine de fois avant de saisir. Il est récupéré par Morphée, Trinity, toute leur bande. Qui se cache dans les égouts sous la terre pour survivre aux machines. Et du coup, il est ramené dans le monde réel très violemment. Enfin, il a décidé, hein, il a pris la petite pilule rouge, hein, comme tout le monde. Et du coup, il est l'élu. Alors, il est celui qui est censé sauver l'humanité tout entière des machines qui s'apprêtent à les tuer.
À l'opposé, il y a un personnage qui le pourchasse, une sorte d'agent du FBI, l'agent Smith, qui lui aussi est un peu particulier, mais ça on ne le découvre pas dès le début, on le découvrira dans la suite du premier film, dans effectivement Matrix Reloaded et Matrix Révolution. Alors avant d'aller plus avant encore dans les différents personnages, dans la mythologie autour de Matrix et les inspirations de Matrix, je vous propose quand même qu'on s'écoute la bande-annonce du film pour vous donner un petit peu l'ambiance.
Qui avait l'air plus vrai que la réalité. Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel ?
Qu'est-ce qui m'arrive ?
La réponse est là-bas, Neo. C'est la question qui nous anime tous.
C'est quoi la matrice ?
La matrice est le monde qu'ils ont placé devant ton regard pour t'empêcher de voir la vérité.
Quelle vérité ?
Ils te surveillent, Neo.
L'espèce humaine est une maladie. Vous êtes le cancer de cette planète. Et nous sommes l'antidote.
Fais-moi sortir tout de suite !
Bienvenue dans le monde réel.
Alors, tu es là pour sauver le monde ?
T'as besoin de quoi ?
Des armes. Un maximum d'armes.
Personne n'a jamais pris ce genre de risque.
C'est pour ça qu'on va réussir.
Mets ta ceinture, Alice. Et bon voyage au pays des merveilles.
Alors, vous l'avez entendu, beaucoup de répliques sont cultes. Ça reste vraiment un film de geek et un film d'action, même s'il y a toute une philosophie dans ce film. Ça reste quand même vraiment un film d'action. La réplique « Tu vas sauver le monde », ouais, qu'est-ce que t'as de quoi t'as besoin ? Des armes. Là, on sent qu'on est dans le truc un peu hollywoodien quand même, où il y a des bonnes explosions partout. Quand c'est sorti, ça a fait un carton chez les geeks, parce qu'ils étaient hyper cool, leur tenue tout en cuir, les lunettes de soleil, les téléphones à clapper. C'était vraiment... Ils avaient du style quand même, hein, les petits gars de Matrix. On avait tous envie de ressembler à ça. Je sais pas si, comme moi, vous jouiez dans la cour de récréation avec vos petits camarades à Matrix, avec des lunettes de soleil ou chez vous, avec des manteaux noirs, machin, mais voilà, il y avait un truc un peu exceptionnel là-dessus. Mais derrière tout ça, quand on l'analyse un petit peu plus aujourd'hui, chaque personnage a une inspiration qui est importante. Neo, on va aller assez vite dessus, Neo c'est nouveau, donc ça, voilà, ça transcrit un peu cette idée de l'élu, cette idée du changement évidemment. Ludo, parmi les personnages au niveau mythologique, tu peux nous le présenter un peu les grands personnages, est-ce qu'on peut retrouver un peu derrière, quelles figures, quels archétypes on retrouve ?
Alors oui, on peut déjà on peut voir Morpheus, qui est le personnage qui propose la pilule rouge ou la pilule bleue, qui fait référence donc Morpheus qui fait référence au dieu du sommeil, donc dans la mythologie grecque romaine.
Gréco-romaine, on va dire.
Ouais, voilà, comme la lutte.
C'est pour ça qu'il essaye de réveiller Néo.
C'est ça.
Et puis c'est évidemment la figure du sage également et de l'entraîneur, c'est-à-dire le mentor de Neo, mais pas que Neo, de plein d'autres. Mais voilà, c'est la figure du mentor évidemment.
Voilà.
Et je t'aide un peu ces archétypes si t'as besoin.
Et on trouve aussi alors le personnage de Trinity qui de par son nom fait forcément référence à la Trinité. Donc pour le coup cette fois à l'inspiration à la religion catholique.
C'est une femme. Alors c'est la Trinité femme, par une femme. C'est voilà, une conception originale.
Originale, surtout pour les réalisateurs.
Alors en tout cas, Trinity, l'archétype de base, elle a entre deux choses. C'est-à-dire que c'est d'un côté la princesse à sauver, un peu comme dans les contes, parce qu'effectivement, on va le voir assez vite que le héros est amoureux de la princesse, et en même temps, c'est la guerrière. C'est-à-dire qu'elle elle a cette espèce de double archétype qui est intéressant. C'est un rôle de femme alors, il y a ce côté « je vais être sauvée et en même temps, je sauve ». Donc, elle a les deux aspects tout au long de la trilogie. Et puis, elle a un côté badass aussi. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas la dernière à dégainer ses pistolets, à taper sur les agents.
Et puis, ce n'est pas la plus nulle, surtout, parce qu'elle en met quelques-uns au tapis, autant vous le dire. Hein.
Mais bon, le baiser du prince charmant reste quand même, dans un sens ou dans l'autre, de la princesse au prince ou du prince à la princesse, reste quand même un des grands moments forts dès qu'on raconte une histoire, et a priori, on n'y coupe pas dans Matrix. D'autres personnages, un personnage principal, c'est il y a l'architecte, la voyante, on a l'impression qu'on est dans une partie de loup-garou. Il y a la voyante, la petite fille, le chasseur. Donc il y a l'oracle,
l'architecte. Le qui fait quand même un petit peu aussi référence à l'histoire de la dynastie des rois français.
Alors, enfin, francs, même. Là, justement, on est sur des programmes. C'est-à-dire, quand on parle de l'oracle, quand on parle de l'architecte, quand on parle du mérovingien, même quand on parle des agents assimilés à FBI, CIA, etc., et de l'agent Smith, on n'est que sur des programmes.
Oui. Qui ont leur identité propre, qui ont leurs caractéristiques propres, notamment alors, le mérovingien qui est un des plus anciens programmes et qui a réussi à survivre, justement, à s'émanciper. On va voir effectivement aussi l'architecte qui est entre guillemets le père de tout.
L'oracle qui est la mère.
L'oracle qui est la mère. Alors pour revenir à l'architecte aussi qui fait référence pour le coup à la culture. Au panthéon franc-maçonnique.
Avec l'idée du grand architecte qui dirige, effectivement. Et les agents qui sont un peu le service de sécurité. Alors,
c'est l'anti-malware.
Ouais, l'anti-malware, c'est ça. L'anti-malware.
C'est ça.
Avec l'agent Smith.
C'est Kaspersky, en fait.
Voilà. Avec l'agent Smith, justement, qui est particulier parce que de programme anti-malware, anti-virus, il va devenir finalement lui-même un virus. Et ça, on va découvrir un petit peu le comment, le pourquoi et ce qu'il y a derrière.
Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, parce que Smith, c'est typiquement le nom anonyme, par définition, pour les Américains. Et justement, c'est l'agent précisément qui, lui, sort de l'anonymat et devient quelqu'un parmi les agents.
Parce qu'il en a marre d'être anonyme, justement.
Oui, voilà.
Oui, et après, il deviendra un elfe. Mais ça, c'est une autre histoire. Sam, toujours sur les références, on a vu qu'il y avait des références beaucoup à la religion, voire à la mythologie. Il y a des références aussi, évidemment, à la littérature, voire au cinéma, avec cette fameuse pilule rouge, pilule bleue, et avec le lapin blanc.
Oui, tout à fait. Donc le lapin blanc, donc référence de Lewis Carroll, donc Alice au pays des merveilles. L'histoire du petit lapin blanc qu'il faut tout le temps suivre. On peut voir une livreuse également qui possède ce tatouage. La pilule rouge, donc que l'on retrouve dans Total Record avec Schwarzenegger. C'est le moyen de revenir à la réalité et de mettre fin au monde virtuel, en fait.
Alors, on va retrouver, hein, c'est symbolique un peu tout le temps dans les films, avec des noms un peu anciens, notamment le vaisseau, puisque quand on est libéré de la matrice, on se déplace dans les galeries avec un vaisseau, et le vaisseau de Morpheus et de Neo, c'est le Nebuchadnezzar, voilà, ou Nebuchadnezzar, et ça vient de Nebuchodonosor, alors, voilà, à dire, c'est... très sympathique. Mais effectivement, tous les vaisseaux comme ça ont des noms un peu différents, alors plus ou moins codés, mais qui font référence effectivement à de la mythologie ou à de la religion générale. Il y a une espèce autour de Matrix, et je pense que c'est volontaire, de gloubi-boulga religieux avec un petit côté débrouillez-vous avec ça. C'est-à-dire qu'on en met un peu toutes les sauces.
Il y a toutes les religions en plus. Il y a du bouddhisme, il y a du christianisme.
Néo est évidemment une figure christique, ça se voit énormément
tout
à la fin.
Surtout dans Révolution, oui. Enfin, il y a vraiment un peu de tout, même les religions païennes. Donc les religions grecques, les religions romaines, avec tous ces personnages.
Les religions polythéistes, tu voulais dire.
Voilà, c'est ça. Avec tous ces personnages qui portent des noms directement liés à la mythologie, ancienne. C'est vraiment un fourre-tout.
Et puis il y a à plusieurs moments une portée philosophique, un message philosophique vraiment qui est lié au film. Alors moi j'avais étudié un peu en philo, en terminale justement, le premier, quelques scènes du premier, c'était super, super intéressant de pouvoir l'étudier comme ça en philosophie. A priori les deuxièmes et troisièmes ont moins cette portée là et sont moins faciles et moins limpides à lire, mais on va pouvoir en parler, on va pouvoir, voilà, vous allez pouvoir me dire un peu ce que vous en pensez. Avant de passer justement à la pause musicale et d'aborder le côté un peu plus philosophique et plus décryptage finalement des films, tous les trois vous en pensez quoi de Matrix? Est-ce que pour vous ce gloubi-boulga de faits religieux et philosophiques, c'est fait pour créer une espèce de, on appelle ça la mystery box souvent, c'est-à-dire un truc qui n'est pas perceptible par le spectateur mais qui crée de l'intrigue, ou est-ce que pour vous il y a un vrai message volontaire et derrière de la part des réalisateurs?
Un vrai message de la part des réalisateurs, j'irai pas jusque-là quand même. Pose plutôt des questions, ils abordent des thèmes. Mais en fait, c'est tellement un fourre-tout qu'on peut en avoir sa propre interprétation. Alors, à la fin du 1, il y a un vrai message clair. Voilà, qui est que les machines, elles sont pas cool. La matrice, c'est pas cool non plus. Par contre, la réalité, c'est bien. C'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre la pilule rouge.
Tu dirais que le message du 1, c'est de se dire la réalité est moins belle que le côté virtuel, mais au moins on est libre. Et en gros, ça pourrait être le message qu'on aurait dans le 1, c'est ça?
J'aimerais pouvoir parler aussi bien.
C'est ce que je suis une machine, c'est pour ça. Ludo, toi, tu penses qu'il y a un message, que c'est un film d'auteur ou que voilà, c'est des gros pistolets, des costumes sympas et un gloubi-boulga?
Alors, pour moi, en fait, c'est un bon film de SF dans la mesure où, pour moi, un bon film de SF ne nous donne pas de réponse, mais nous pose des questions. Justement, ça, je rejoins un petit peu ce que disait
si on comprend pas, c'est que c'est bien, alors, c'est ça?
Non, si on comprend pas l'histoire, bon, il faut peut-être se poser des questions. Si on comprend pas le message, si on sort avec plus de questions sur philosophique que de réponses, c'est que c'était un bon film de science-fiction.
Sam.
On peut effectivement se poser pas mal de questions. Après, il y a quand même une technique de tournage qui est propre à ça. Il y en a quand même un petit peu partout. Il y a ce qu'on appelle le bullet time, donc un effet de caméra mobile qu'on retrouve dans Ghost in the Shell, par exemple, dont on a déjà évoqué le sujet. Le principe de ça, en fait, c'est de disposer plusieurs appareils photo en cercle. À partir de là, oui, tout est fait pour créer une ambiance en plus du concept philosophique, quoi.
Eh ben, on fait une petite pause musicale et puis on va revenir sur cette technique du bullet time parce qu'elle est, elle apparaît pour la première fois, je crois, dans Matrix. Et après, on la retrouve dans des jeux vidéo notamment. Et puis tout le côté philosophique. Mais c'est vrai que on peut noter quand même que effectivement, il y a une réalisation qui est vraiment au service de ce côté. Voilà, un peu perturbant, un peu trompeur et que c'est, ça marche plutôt bien à ce niveau. En tout cas, c'est une belle réussite au moins à ce niveau-là. Rage Against the Machine, voilà, avec mon accent anglais improbable pour cette bande originale, enfin en tout cas qu'on retrouve dans Matrix. Alors on vous a présenté un peu le film, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. On vous a parlé un petit peu des différentes techniques de tournage, quoi, assez rapidement, et puis de tout ce qu'il y a autour de ce film et de toute la partie un peu décryptage. Et on va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, dans le décryptage, justement. On parlait, quand même, on va finir là-dessus, on parlait des techniques de tournage. Il y a eu 7 techniques de tournage dont tu parlais, Sam, effectivement, les fameux effets bullet time, qui étaient un effet assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait un film, on ne s'embête pas trop, on a des moyens numériques conséquents, et donc quand on veut créer une scène de cascade, on peut la créer entièrement en numérique. Dans Matrix, il y a eu des scènes comme ça qui ont été créées, alors en mélange de numérique, mais pas que, mais sur le premier en tout cas, beaucoup de scènes avaient effectivement été tournées en réel, donc pas composées entièrement en numérique, et ils ont inventé des trucs tout à fait intéressants. L'effet bullet time, c'est le héros qui se prend une rafale de balles dans le visage et qui va les esquiver en arrière comme ça. On va voir les balles au ralenti qui vont passer au-dessus du héros, etc. C'est hyper classe dans le film. Et il y a eu un jeu vidéo, notamment Ludovic, où ils ont complètement repris ce principe-là.
Oui, c'était le jeu Max Payne.
Ça faisait partie du cœur du jeu, ce côté ralentissement du temps.
Ah, c'était vraiment ce qui l'a fait connaître, justement, ce côté rentrer dans une salle, mettre le temps au ralenti, tuer tout le monde et se redresser content de son coup.
Et alors, il y a eu plein d'autres effets qui ont effectivement une technique particulière dans Matrix et qui apporte du coup à la réalisation. On peut penser au saut que peut faire Neo, on peut penser effectivement à la salle blanche et au fait que d'un coup, soit la matrice et d'un autre moment, la salle blanche, etc. Enfin, il y a des effets de caméra qui sont plutôt bien fichus et qui servent vraiment ce récit. Toute la partie aussi liée à l'informatique où on voit des lignes de code défiler verticalement, en vert et noir, voilà, c'est incroyable, parce que ce vert et noir, c'est les premiers terminals sous DOS hein, qui ont ces couleurs-là, c'est presque la couleur d'un oscilloscope, donc on imagine que dans le futur, les gars, ils pourraient faire autre chose que d'avoir des couleurs toutes pourries, mais bon, c'est comme ça, avec des références aussi, vous en parliez, messieurs, à Ghost in the Shell, dans ces lignes de code-là. Et donc toute cette réalisation-là, elle est au service effectivement des différents messages. Alors le premier message qui est le plus facile et le plus lisible, j'en parlais, c'est la fameuse salle blanche avec Ludovic, l'allégorie de la caverne de Platon. On va faire un peu de philosophie dans cette émission. Tu peux nous redire en un mot ce que c'est que l'allégorie de la caverne?
Alors, en fait, l'allégorie de la caverne, c'est le principe que le monde n'est que ce qu'on en voit et que...
Est-ce qu'on veut bien nous en montrer? C'est-à-dire que l'allégorie de la caverne, vous avez 3-4 gars dans une caverne, et puis ils voient un mur en face d'eux avec des choses qui bougent, et ils croient que c'est le monde. Et en fait, il y a un feu derrière eux, et ce feu projette des ombres sur le mur. Et à un moment donné, il y en a un qui sort et qui dit « Ah, mais en fait, ce que je voyais, c'est pas le monde réel, il est dehors, derrière, après le feu ». Voilà, donc en gros, c'est la question de est-ce que le monde que je regarde est bien le monde réel? Je suis une machine, je te l'ai dit, Ludovic. Alors effectivement, cette caverne de Platon, elle est très présente dans le film avec la salle blanche quand Morpheus explique à Neo comment la matrice est créée et que voilà, ce n'est qu'une perception du monde. C'est aussi, on reparle encore de philosophie, avec René Descartes, la fameuse question du doute et le « je pense, donc je suis ». Je vous le fais rapidement, on peut douter de tout puisque la perception du monde vient de nos sens, le toucher, etc. La vision, le plus probant, c'est justement la vision. Un daltonien ne perçoit pas le monde comme quelqu'un qui n'est pas daltonien. Donc, on peut douter de la couleur réelle, finalement, des choses. Mais la seule chose dont on ne peut pas douter, c'est le fait de penser. Parce qu'au moment où on pense, on pense que l'on pense. Donc, quand on pense, on sait qu'on existe. Mais en revanche, on peut, de manière scientifique et assez sereine, douter de tout le monde, de tout ce qui nous entoure et de tout ce qu'on perçoit. Et c'est exactement le message de Matrix, c'est de dire, mais voilà, la conscience, c'est exister. En revanche, qu'il y a autour, ça, c'est un autre questionnement. Donc ça, c'est vraiment le premier angle philosophique qui est très, très fort dans les films et qui est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres, comme ça, passages religieux, notamment, par exemple, qui vous ont intéressé ou mythologiques?
Alors, il y a notamment, effectivement, ça incite à la réflexion sur l'avance du progrès, justement, où on se retrouve dans une histoire où les humains ont tellement progressé, ont tellement voulu, ont été tellement feignants, finalement, à tellement vouloir faire tout automatiser par les machines, à leur donner même la possibilité de penser à leur place, de vivre à leur place, qu'ils en viennent à devenir asservis par eux. Donc, on en vient à... Et on entend même les robots dire que les machines sont l'antidote à la peste que peut être l'être humain face à la destruction de sa propre planète.
Et Marjorie, il y a un conflit, c'est-à-dire qu'il y a une interaction obligatoire finalement entre les machines et les humains, puisque quand on regarde Matrix, on comprend que l'architecte crée finalement, c'est lui qui crée avec l'oracle cette fameuse élue, et qu'il y a un cycle comme ça qui se reproduit et qui permet à la fois la survie de l'humanité et la survie des machines. Pourquoi, comment, qu'est-ce? Oui, c'est une des théories que... sur le.
Alors en fait, il faut permettre à l'être humain d'avoir de l'espoir, tout simplement pour avoir la force de continuer à vivre, parce que sans espoir, on se laisserait totalement faire, quoi, et on ne ferait plus rien pour finir. Donc la voyante a trouvé le moyen de créer la matrice parfaite, ce que l'architecte tout seul n'a pas réussi à faire, puisque c'est un programme assez perfectionné et surtout perfectionniste, qui avait créé des matrices parfaites, mais qui ne fonctionnait pas, les humains dépérissaient en fait. Et la voyante, un autre programme, mais plus basé sur la psyché, sur la psyché humaine, lui a dit non mais faut inséminer de l'histoire dans ton truc, sinon ça marche pas. Et du coup est venu cet élu qui a très clairement un pied dans chaque monde. Il est mi-humain, mi-machine, et en fait il est censé aider tout le monde, même les machines.
Et l'architecte et l'oracle ont conscience aussi de leur propre défaillance finalement, puisque il y a ces vieux programmes qui se sont un petit peu mis au banc, mais qui ont réussi à survivre de la matrice, notamment le Mérovingien et ses confrères. Et puis il y a l'agent Smith qui effectivement est un programme qui bug, et aussi bien l'oracle que l'architecte ont conscience qu'il faut justement ces humains et cet élu pour arriver à lutter contre ces programmes un petit peu défaillants, et qu'il en va aussi de leur survie. Donc il y a cette espèce de cycle et de pacte qui est fait avec les humains, mais de manière pas officielle mais officieuse justement, et de manière biaisée pour les humains, et que finalement il y a un cycle avec l'élu, et l'élu à un moment donné doit choisir entre la destruction totale de tous les humains ou sauver qu'une partie des humains et reprendre l'histoire à zéro. Il y a des cycles comme ça qui se répètent, et évidemment Neo n'est pas un élu comme les autres, il va essayer de changer tout ça, non, et de réconcilier humain et
machine. Il va surtout faire un pacte pour détruire la grande menace qui menace à la fois les humains et à la fois les machines, c'est-à-dire l'agent Smith, qui est un virus qui détruit la matrice, donc qui détruit les machines, et qui, en plus de ça, aide un peu à détruire les humains aussi.
Alors, une des choses dont qu'on a entendu, dont on a peu parlé dans Matrix, c'est la bande-son, Sam. Tu me disais hors antenne que c'était un des trucs que tu avais bien, bien kiffé dans les films.
Ouais, effectivement, y a pas mal de métal, c'est ce que j'écoutais, à l'époque. C'est assez violent, ça nous projette bien dans les scènes avec les effets de caméra dont on parlait tout à l'heure. Ça crée vraiment une ambiance d'intrigue, mais en même temps de vouloir toujours avancer, toujours continuer. Et puis bon, c'est vrai que c'est moi personnellement pas mal de groupes que j'écoutais. J'ai acheté bande son, et je continue. Je les ai écoutés plus que ce que j'ai regardé le film, même par le fait, quoi.
Sur les produits dérivés, justement, il y a cette fameuse trilogie. Donc je rappelle, Matrix, Matrix Reloaded et Matrix Révolution. Donc c'est 99 et 2003 pour les deux autres. Et il y a aussi des jeux vidéo, des courts-métrages en plus.
Alors, il y a Animatrix, c'est une série de 9 courts-métrages qui parle de l'univers de Matrix et de la matrice, surtout des origines, de la genèse, ce dont j'ai parlé dans la première partie de cette émission. En fait, toute cette genèse qu'on n'a pas dans les films, mais qu'on a dans ces courts-métrages. Et il y a aussi le jeu vidéo Enter the Matrix, un jeu sorti en 2003 entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Un jeu d'une qualité très médiocre. Très officiellement, je vous déconseille d'y jouer. Mais si vous voulez en regarder, il y a des extraits du film à l'intérieur et des petites informations sur la genèse de l'univers qui sont assez sympas.
Alors avant qu'on ne se quitte, un dernier mot peut-être en conclusion, vous me donnez votre avis. Finalement, est-ce que c'est dans Matrix vraiment une bataille entre les humains et les machines, ou est-ce qu'il n'y a pas ce questionnement justement de l'asservissement de l'humain par lui-même? Parce que finalement, c'est des machines, mais c'est des machines qui ont été créées par les humains. Et est-ce que la critique finalement que les choses qui font de l'univers aujourd'hui, et pas justement cette critique-là de se dire attention, le monde dans lequel vous vivez, le monde qu'on est en train tous de créer, avec tout ce virtuel qu'il y a et toutes ces choses qui sont automatisées, est-ce que finalement, ce n'est pas un monde qui est dangereux en lui-même et qui est plus beau de l'extérieur que de l'intérieur ? Est-ce que ce ne serait pas ça, finalement, la vraie critique du film ?
Je pense que les Wachowski y ont pensé. Et je pense vraiment que c'est le thème principal du film, ça avec la condition humaine et l'intelligence artificielle.
Ouais, je pense que. Excuse-moi, Ludo. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais on le voit de plus en plus. Il faut faire attention de toujours maîtriser cette chose, cette avancée technologique, informatique.
Quand on a le nez rivé sur son smartphone H24, est-ce qu'on n'est pas déjà quelque part dans la matrice, dans un monde un peu virtuel ? C'est un peu ça la question.
Ça vaut pour le téléphone, ça vaut pour la télé, ça vaut pour tout ce qui est média, tout ce qui est virtuel. Et je pense que le film, plus que de dire « c'est pas bien », c'est un avertissement en disant faites attention, c'est risqué.
Ou une photo du futur.
Merci à tous en tout cas et à la semaine prochaine. Salut.
Salut.
Salut.